Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Bonjour à tous les auditeurs qui nous sont fidèles sur Radio Occitanie. Nous allons recevoir aujourd'hui une poète ou poétesse, voilà, Martine Billard, qui nous arrive de Lunel. Alors, avant qu'elle ne s'installe, je vais la présenter très rapidement. D'abord, c'est une Toulousaine dans la mesure où elle est née à Toulouse. Donc, et elle vit dans notre belle Occitanie, puisque, comme je le disais tout à l'heure, elle vit près de cette petite Camargue qu'elle affectionne beaucoup, qui est la ville de Lunel. Et elle a vécu, dit-elle, entre les deux mondes culturels qui nous sont chers par excellence, ici, bien entendu, Radio Occitanie, qui est le monde culturel occitan et le monde culturel catalan, qui sont quand même deux cousins, hein, et très proches. Et elle a fait des études de lettres, d'études d'abord classiques, élève de Cagnes, et puis une double formation universitaire qui l'a conduit à être enseignante, avec une spécialisation en histoire moderne et en poétique contemporaine. Martine Billard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez repris votre souffle.
Oui, ça y est. Bonjour aussi à nos chers auditeurs. Et j'arrive en fait de Perpignan. Donc on fait tout à fait le lien entre la Catalogne,
oui,
la Catalogne et l'Occitanie.
Oui,
et le Languedoc,
on va dire. Maintenant, voilà. Appartient
à l'Occitanie, bien sûr.
À l'Occitanie, donc c'est la partie catalane de l'Occitanie, ce qui explique par exemple sur le logo les trois traits verticaux qu'il y a sur le logo de la région Occitanie. Voilà. Alors, Martine Billard, donc je disais, vous avez été enseignante pendant longtemps. Vous avez été membre du comité directeur d'une revue qui nous était chère, la revue Souffle, qui a disparu récemment.
Elle n'a pas vraiment disparu, mais disons qu'elle est en dormance en ce moment.
D'accord, mais espérons qu'elle se réveillera. Oui. Il y a des revues comme ça qui se réveillent. Par exemple, la revue Encre Vive. Mm-hmm. Michel Cosem a disparu, malheureusement, il y a quelques mois maintenant. Mais on sait aujourd'hui que la revue Encre Vive va continuer. Et d'ailleurs, elle va continuer près de chez vous, puisque c'est Éric Chassefière, un poète que je vous invite d'ailleurs à connaître, qui est pas loin de chez vous, puisqu'il est à Frontignan, exactement, donc près de Sète. Hein.
Frontignan, ça me parle, parce que je m'y suis mariée.
Ah, voilà. Voilà, et bien sachez qu'à Frontignan, maintenant, il y a Éric Chassefière, donc qui est un poète qui a rayonné un peu comme vous, qui a fait pas mal de voyages, et puis qui a pris sa retraite là, et qui a décidé de continuer donc la revue et les éditions Encre Vive. Voilà. Alors espérons qu'il en soit pareil pour Souffle, qui est une vieille revue. D'abord, le même nom, Souffle, a été pris par Abdelmajid Larabi, pour sa revue quand il était au Maroc, en 1962. Il a créé une revue qui s'appelle Souffle.
Voilà. Oui, et de toute façon, la revue Souffle, c'est une des plus anciennes revues poétiques du Languedoc. Elle arrive pendant la guerre. C'est un papier au départ qui est une façon de faire de la résistance sur le plan de la littérature. Et ça apparaît à Montpellier, c'est à l'initiative donc de poètes résistants. Et c'est une des plus anciennes revues, effectivement, en Occitanie. Ça arrive en 1942, les premiers feuillets ronéotypés.
Oui, qui était œuvre de résistance. Hein, donc, en 1942, c'est une des revues de poésie avec, il y avait Max-Paul Fouché, par exemple, qui faisait paraître aussi des revues de combat. Hein. Mm-hmm. Et bon, espérons que cette revue reprendra son souffle. Et cette revue, également, vous avez connu, je crois, un de ses anciens directeurs.
Oui, alors j'ai connu Jacques Gasque,
voilà,
qui a été aussi mon mentor, oui, et également donc, la personne
de la région.
Voilà, et en plus qui m'a validé, je dirais, qui m'a coopté dans ce milieu de la poésie à Montpellier, parce que au départ, d'abord, la revue Souffle accueillait très peu de femmes, on était une poignée de femmes. Moi, j'étais une jeune fille, j'ai été accueillie presque par exception, enfin, et dans les années 80. Et Jacques Gasque, ça me touche beaucoup parce que c'est quand même celui à qui j'ai consacré justement ma thèse, quoi, et sur l'œuvre poétique de cet homme. Et aujourd'hui, on retrouve tous ses écrits avec finalement sa première et son unique peut-être biographie dans Les Seuils Magnifiques, qui est un livre donc de Martine Viard peut se procurer
chez éditions et des livres.
Voilà, aux éditions et des livres, mais du coup on peut le commander en librairie ou le trouver en ligne.
D'accord. Alors pour situer, je crois qu'il est né en 1943, c'est donc ça. Juste après, et il est mort en 2010, hein, c'est ça.
Oui.
Donc c'est quand même très
récent. Et on lui a consacré un hommage à la Maison de la Poésie de Montpellier. À la présence de Jean Joubert, qui était encore...
Jean Joubert, qui était à ce moment-là le président...
Jean président Joubert, fondateur de la Maison de la Poésie de Montpellier.
Oui. Oui. Alors vous êtes donc aussi membre, après avoir eu le prix René Vivien.
Oui.
Je crois qu'on a reçu une dame poète également qui avait le prix René Vivien, je ne me souviens plus qui c'était, récemment. Non, c'est Stéphane Amiot.
Oui.
Stéphane Amiot, qui a eu le prix René Vivien.
Et qui est, je crois, toulousain aussi.
Qui est toulousain, qui est maintenant toulousain, oui. Il enseigne, il est professeur à côté de Villefranche-de-Lauragais, à Aigues-Vives exactement. Et il a eu le prix René Vivien, comme vous. Le prix de poésie René Vivien. Et il a eu aussi le prix Tournai Léris de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Stéphane Amiot, nous avons fait une émission avec lui récemment. Et maintenant, vous êtes membre de cette Académie, René Vivien.
Oui, et délégué pour l'Occitanie.
Voilà, et délégué, vous représentez l'Occitanie, donc à l'Académie René Vivien. Vivien. Et puis, vous allez être intronisé comme membre également de l'Académie. Comment s'appelle-t-elle, cette
Alors,
Académie?
C'est l'Académie Via Domitia Pierre-Paul Riquet à Béziers, qui est une jeune académie qui a été... Enfin, on a commencé, disons, enfin, son président fondateur, on va dire, qui est le secrétaire perpétuel, M. Nougared, Jean-Claude Nougared, a eu la vision de cette académie et de sa nécessité dans les années 2020. Et puis, ça a été officiel à partir de 2022. Donc, c'est une nouvelle académie où j'occuperai le fauteuil 20. Puisque,
il y a combien de fauteuils? 40 aussi?
40, comme dans toutes les académies de France. Oui. Et donc, je serai intronisée le 16 décembre à Béziers.
Très bien.
Au théâtre.
Très bien. Eh bien, félicitations.
Merci.
Et vous savez que l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, ici, va inviter l'ensemble des académies de France. Je crois que c'est ou cette année ou l'année prochaine. Je devrais le savoir, mais j'ai un trou de mémoire. Voilà. Et donc, cette académie sera bien entendu invitée.
Contactée.
Voilà. Alors. Vous êtes surtout l'auteur d'une œuvre qui est tellement importante que je n'ai pas eu la capacité de la mener en entier aujourd'hui.
Elle présente plusieurs aspects. Oui.
Voilà. Alors, elle présente plusieurs aspects parce que vous êtes à la fois donc poète, vous avez une œuvre poétique importante, mais vous êtes également romancière, puisque vous avez écrit donc des romans, des récits.
6 de publiés.
Mais aussi, vous êtes essayiste dans la mesure où vous êtes essayiste, même conférencière. J'ai regardé le nombre de conférences que vous avez données et les sujets, donc des sujets très variés. J'ai vu que vous parlez également des femmes troubadours.
Oui. Les Trobaïrites.
Les Trobaïrites.
Oui.
Et donc, conférences, performances, vous animez des cafés littéraires aussi, et puis des entretiens radiophoniques et des causeries. Là, dans une de vos entretiens, j'ai repris ceci. Cocteau disait, les poètes ont l'air d'être comme les autres, mais ce n'est pas vrai. Voilà. Alors, j'en profite pour faire une petite pause en disant cela, puisque nous avons également dans ce studio avec nous Svante Svantrum, et qui va être très en colère, parce que je n'ai jamais su prononcer vraiment son nom.
Oui, c'est difficile. Donc, c'est Svanström. C'est un nom suédois, hein, donc je sais que ça peut être difficile.
Voilà. Donc, Svante est là pour également vous accompagner, puisque Martine Biard fera l'objet d'un tempo-poème, c'est-à-dire d'une animation ici à Toulouse, à la Maison de l'Occitanie, 11 rue Malcousinat, hein, près du métro Esquirol, près de la place Esquirol, dans ce magnifique hôtel du 15e siècle. Et ce tempo-poème donc va vous être consacré. Et Svante va peut-être nous rappeler ce qu'est le tempo-poème auquel vous allez être la vedette, entre guillemets, avec des musiciens, je crois, vous allez venir.
Un musicien. Pour l'instant, alors, ce n'est Svante, pas encore un orchestre.
Tu nous rappelles la date, s'il te plaît, Svante.
Oui, tout à fait, ce sera le 25 janvier. Et je vais dire juste un tout petit mot pour les personnes qui n'ont pas nécessairement entendu les entretiens précédents avec les poètes invités pour Tempo Poème. Donc, tout simplement pour préciser que les rencontres que nous organisons, donc avec Christian Saint-Paul, avec Francis Pournon et moi-même, depuis 2018, on fait se succéder jusqu'ici 14 poètes, et donc Martin Gard, et la 15e soirée que nous organisons avec des poètes à la Maison d'Occitanie. Donc il faut aussi remercier la Maison d'Occitanie, dont la bienveillance nous permet effectivement d'organiser ces soirées dans le cadre de ce qu'ils appellent les DJOS, donc les jeudis de la Maison d'Occitanie. Et par la présence de Tempo Poème à la Maison d'Occitanie, s'affirme, on peut dire, et se confirme le lien qu'on souhaite établir entre, d'une part, les troubadours donc du XIIe siècle et les poètes du XXIe siècle, et notamment quelques-uns qui sont comme des troubadours hein, contemporains. Je pense à des poètes comme Franck Bardou, je pense à Alem Suré Garcia, par exemple, qui tous les deux sont des poètes écrivant en occitan. Alors, généralement, notre émission précède de deux jours la lecture à la Maison d'Occitanie. Aujourd'hui, c'est un peu particulier, puisque ça a été difficile pour Martine Biard d'organiser une arrivée à Paris en janvier. Et donc, c'est donc aujourd'hui qu'on fait l'entretien, qui est aussi une sorte de préparation pour la soirée donc, du 25 janvier. Et je crois que c'est... Ah oui, il faut donc préciser aussi que nous sommes bien entendu en direct, mais que cette émission est enregistrée et qu'elle sera diffusée, et notamment en parallèle avec la lecture à la Maison d'Occitanie le 25 janvier.
Merci.
Merci, Svante, de nous rappeler ceci. Bien entendu, d'ici là, nous rappellerons cet événement et nous lirons d'ailleurs des textes de Martine Biard pour rafraîchir un peu la mémoire des auditeurs. Alors, vous êtes essentiellement donc quand même un auteur, je dirais, de poésie.
Hein? Oui, alors il y a la partie que vous mentionniez tout à l'heure des romans, hein, il y en a 6. Après, il y a aussi des ouvrages en histoire, parce que je suis quand même aussi historienne.
Oui.
Donc là, il y a 4 ouvrages assez conséquents au service de l'histoire, et d'ailleurs qui ont à voir avec l'Occitanie, l'histoire en Occitanie.
Oui, c'est ça. Voilà. Alors nous vous avons, avec Svante et Francis Pournon, nous vous avons découvert Alors j'étais surpris de la date. Pour le prix de poésie, le grand prix de poésie des gourmets de lettres, hein, qui est une association qui tient un salon du livre et des animations chaque année et qui est sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux, donc qui se réunit ces jours-là dans l'hôtel d'Assesa, dans les locaux de l'hôtel d'Assesa. Et j'ai vu que c'était 2014.
Alors, effectivement, j'ai été récompensée par un prix en 2014 par les gourmets de l'autre. Oui, oui. Et c'était pour un ouvrage qui s'appelait Letrobaïris, femme poète du Sud au XXIe siècle. Oui. Le jury, évidemment, entre-temps, de poésie a changé, n'est plus présidé par la même personne, puisque le président... qui avait été à l'initiative de cette distinction est décédé entre-temps. Et par contre, en 2022, donc, j'ai eu à nouveau un prix de poésie donné par les gourmets de lettres, sous l'égide aussi de l'Académie des Jeux Floraux, avec comme président donc Pierre Harlet, cette fois-ci, président de jury, et qui a récompensé un livre qui s'appelle « Les sourires de l'intime ». Je suis contente parce que le 12 novembre, ici à Toulouse, il y a eu des milliers de personnes qui se sont rassemblées pour lutter contre l'antisémitisme. Et malheureusement, ce livre devient encore plus d'actualité.
Les poètes sont toujours en avance sur les événements. Alors, ça me rassure, parce que je ne comprenais pas. Moi, j'avais ce souvenir, effectivement, d'avoir... Parce que je crois que j'étais dans le jury, je crois.
Oui,
voilà. D'avoir, effectivement... mais quand j'ai vu partout 2014, parce que dans votre biographie, vous reprenez votre prix de 2014, mais vous
ne savais pas au moment de la publication des Sourires de l'Intime que je serais un jour récompensé ce livre.
Donc je me dis, tiens, le temps de temps est passé. Donc j'étais un peu affolé.
Mais en même temps, je dirais une double consécration à Toulouse. Me rassure un peu. Voilà.
Oui, c'est formidable. Bon, c'est très bien. Alors, Les sourires de l'intime, c'est un livre tout à fait particulier qui a pour fond, donc le fond du livre, c'est évidemment le problème de la solution finale, c'est-à-dire la Shoah. Et donc ce recueil, il a été commenté, il a été postfacé par la peintre Elisabeth Castoriano, qui est descendante d'une famille française, juive, qui perdit à Auschwitz 45 de ses membres.
Voilà. Alors, que les rafles étaient particulièrement efficaces.
Oui. Je rappelle quelquefois que nous avons reçu souvent Claude Vigée, avec lequel j'ai travaillé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un poète du XXe siècle, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, puis qui est revenu quand même en Israël pour les dernières années, qui m'avait invité à faire le tour des universités hébraïques, puisqu'il animait la littérature comparée. Donc nous avons fait ici des émissions avec lui, avec Claude Vigée et Monique Lise-Cohen, qui est une...
Que j'ai connue.
Voilà, vous avez connu Monique Lise-Cohen, ça a été une grande amie, elle était familière de cette émission. Et avec Monique Lise-Cohen, nous avons voulu décentraliser un peu les événements de la poésie à Toulouse. Et nous sommes allés à Saint-Bertrand-de-Comminges, où nous avons été accueillis à Saint-Bertrand-de-Comminges dans l'espace qui est dédié à la personne qui s'occupe de la basilique, le chanoine qui était là et qui est effectivement très grand. Et donc nous avons fait une soirée où il y avait une soixantaine de personnes à peu près, 70 personnes, où Claude Vigée nous a parlé de sa vie. Et à la fin de la soirée, nous avons été invités par le chanoine qui s'occupait de la basilique, qui est ensuite parti dans le Bronx. C'était vraiment un type extraordinaire. Il était directeur du centre culturel Saint-Jérôme aussi à Toulouse. Et donc il nous a fait visiter la basilique et ensuite nous avons fait un tour dans le village, il était 1h du matin à peu près, et tout d'un coup nous avons vu Claude Vigée s'effondrer en larmes, complètement, devant une maison, et là il nous dit, je reconnais tout, je reconnais les lieux, et il nous donne des noms de familles juives. Et tout lui revenait, la mémoire lui était revenue, il savait... Là, il y avait un tel, là, il y avait un tel, là, il y avait un tel. Et il nous expliquait qu'en 1942, Claude Vigée, c'est un épisode qui n'est pas du tout connu des Toulousains, malheureusement, mais il faut savoir que l'armée secrète israélienne, l'armée de résistance juive, a été créée ici à Toulouse en 1942, où Claude Vigée était étudiant en médecine, hein, c'est étonnant, étudiant en médecine en 1942. Et donc, il faisait partie de ce mouvement de résistance. Et il était allé prévenir, puisqu'ils avaient eu des informations, c'était surtout des informations, la résistance, à cette époque-là. Il était allé prévenir toutes les familles juives qui s'étaient réfugiées là, parce que c'était près de la frontière espagnole, de ce qu'une rafle allait bientôt arriver, qu'il serait bientôt arrêté. Voilà. Et lui s'est souvenu de ça. Il s'est souvenu des noms, ce qui est quand même extraordinaire. Il a fondu en larmes. Et puis il a dit, la plupart sont restés. Parce qu'ils ne savaient pas comment partir, ils ne savaient pas ce qui les attendait, et ne pouvaient pas penser, évidemment, à l'horreur de ce qui les attendait.
Voilà.
Voilà. Oui. Alors voilà, tout ça pour vous dire que, effectivement, les sourires de l'intime, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés.
Alors quand pour faire juste le lien, j'attire l'attention quand même des Toulousains sur le fait que ce livre est dédié à Mgr Saliège, sans lequel... beaucoup, sans doute, de paroissiens et même peut-être de prêtres se seraient interrogés sur la bonne conduite à tenir. Et lui a eu le courage de faire une lettre.
Une lettre paroissienne.
Voilà. Très, très humaniste, oui. Quoi.
Les juives sont des hommes.
Sont des personnes. Et il y a un respect, là, au nom du catholicisme universel, de la personne. Et donc, il a enjoint tous ceux qui le souhaitaient à porter secours et à ne pas céder justement à la peur et aux injonctions du nazisme.
Voilà. Le cardinal Saliège. Donc, il y a la statue est devant la cathédrale de Saint-Étienne, donc. Et je peux vous dire qu'il a fait participer aussi à une forme de résistance, parce que le cardinal Saliège était déjà très malade à cette époque-là. Et quand on est venu l'arrêter, d'ailleurs, sa femme de ménage,
oui,
hein, la dame qui s'occupait de lui, a dit aux Allemands, mais vous n'allez pas prendre ça.
Voilà, on se croirait dans une pièce de Molière.
Voilà.
Où on
mais vous n'allez pas prendre ça.
Heureusement, de
parce
temps
que,
en
bon,
temps.
Il ne pouvait plus parler. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ses lettres étaient toujours très courtes, comme ses menus propos qui étaient toujours... excessivement concis, et qui est une forme littéraire extraordinaire, parce qu'en définitive, il y a vraiment du génie littéraire chez le cardinal Saliège. Et il a fait partie d'un réseau de résistance dès le début de 1940, etc., avec un fasciste, un antifasciste italien. Excusez-moi, je viens d'oublier le nom à l'instant. Qui effectivement ensuite a été exécuté en Italie parce qu'il est revenu. Bon, nous allons revenir au sourire de l'intime. Silvio Trentin, excusez-moi.
Voilà. Et puis nous avions aussi Yankelevitch ici à Toulouse.
Oui, Silvio Trentin, voilà. Silvio Trentin était un ami du cardinal Saliège. Et bien entendu, Vladimir Yankelevitch était à l'Institut catholique. Il était réfugié à l'Institut catholique qui a accueilli énormément de gens. Et d'ailleurs, quand Claude Vigée venait à Toulouse, parce qu'il est venu quelques fois, moi je l'ai fait venir assez souvent, Claude Vigée, eh bien, vous savez où il logeait? Il logeait à l'Institut catholique. Il avait toujours sa chambre à l'Institut catholique de Toulouse.
Voilà. Et il ne faut pas oublier non plus le soutien épistolaire de Jacques Maritain.
Jacques Maritain.
Qui finira sa vie ici à Toulouse aussi.
Grand philosophe qu'il faudrait que les jeunes lisent un peu aussi. Hein. Espérons que... Voilà. Alors, vous allez nous parler du sourire de l'intime. Donc, il y a eu... vous aviez prévu de lire... les aïeux et Tarragone, mais est-ce qu'on pourrait commencer, pardon, par écouter quelques extraits des sourires de l'intime.
Alors, j'attire l'attention aussi sur le fait que Tal Brutman, qui est un grand spécialiste de la Shoah, oui, a eu l'amabilité, donc, de préfacer ce livre. Et j'ai été très, très contente à la fois de son soutien et aussi de ses félicitations, parce que c'est un grand historien de cette période-là.
On vous écoute.
Alors, c'est un... On va commencer peut-être par l'étreinte à l'enfant séparé. Les restes sont partout. Auschwitz, c'est un territoire dynamique. Auschwitz est dans mes jambes athlétiques, ma respiration à plein poumon. Je le charrie comme un haleur. Je n'ai pas peur, je n'ai plus rien. Je le domine du regard, je le circonscris et je l'arpente de toutes mes forces vives. Et sans larmes, je l'oblige à rendre l'âme. Alors, ce sont toutes les âmes douces qui viennent à moi. Ces âmes pures s'éveillent comme des enfants et un peu lasses me suivent en bondissant comme la biche. Elles racontent une histoire sans répit, avec des prairies à perte d'horizon, une chute lente de duvet délicat comme une approche. Et de cette rencontre qui est une petite voie, je dois remonter du 20e abyssal avec la calypso d'Homère ou de Cousteau. Bien sûr, mon ange, que là-bas, au bout du quai, au bout de tout, j'écarte encore mes bras. Mais ce sont de vastes escaliers que seule la mer monte. La splendeur au Yéyel. Yéyel, nous avons oublié la splendeur du cristal qui scintille sur la neige et le linceul des stars d'opale, leurs longs cheveux soyeux, les plus beaux rayons de nos journées. Yéyel, nous avons oublié la splendeur des joues d'enfants en bonne santé, le galop du cheval bai par les chaudes soirées dans les champs d'été. Yéyel, nous avons oublié la splendeur des robes crissantes des femmes, la voix mélodieuse de nos mères, les chants des jours de fête sous la lampe et l'attente à la fenêtre. Yéyel, nous avons oublié la splendeur, l'odeur dorée des gâteaux, des confitures, des entremets de nos goûters, et même les grillons et le vent glissant dans les peupliers. Yéyel, laisse-moi danser, tourbillonner, glisser dans la rangée de nos amis, faire un arc avec mes bras chargés de fleurs et des pas, encore des pas, sans compter. Oh, laisse-moi la splendeur des traces. Rivière éclatante, montagne, écho des lacs à pleine lune, où aller patiner à 2 à 10, pente joyeuse des soirées sur la glace. Oh Yéyel, cela a-t-il seulement existé? Garde-moi la splendeur des longues nuits, des fourrures et des grands sapins blancs qui veilleront sur nos âmes, Yéyel. La dentelle est de givre à la fenêtre sans vitre, où ton regard en silence croise pour toujours le mien. Silence perdu dans la neige, ton ombre claire ou mon amour, qu'attend chacun de nous tenant chaque pan de la terre, de la splendeur du vide. Un troisième qui s'appelle Brisure, et puis après on passera peut-être à un autre registre. Nos tours grandiloquentes ressemblent à des colombes. Nous suivons pas à pas le tracé des rubans rouges. Ils me font une traîne. Désormais, Picasso est présent parmi nous. Pas de débarcadère, mais des taxis à perte de vue pour traverser les ponts. Et toujours plus haut, plus vaste, le vent. Plus majestueux aussi, l'amour à s'extirper d'une seule enveloppe incarnée. au-delà de l'entassement et des songes des millions de nos contemporains dans la ville. L'envolée frémissante, le mouvement d'une main qui rejoint l'autre. Et tout à coup, la mer, si proche, que l'on pourrait prendre dans ses bras. Toute la pinède, les vagues et les nuages. Et des maisons aussi ? Non. Non, pas des maisons. Ce sont elles qui nous prennent. Attention, il arrive qu'en basculant, elles inversent leur rôle. Et que, dans nos mémoires, elles dévorent le paysage. Tu n'as plus de passeport. Personne ne se souvient de ton nom. Tu es seule, vieille. Le temps se scande à coups de fouet. Et ici commence le désert. Mais maintenant, quelque part sur la terre, je pense à toi. Et nous marchons, marchons, droit devant l'insupportable insoumission. Tambour de la terre, à toi, un silence. Adieu va.
Voilà, rappelez le titre donc.
Les sourires de l'intime.
Voilà. Donc il y a pour fond la joie.
Oui, avec un long préambule quand même, avec qui s'ancre dans un reportage photo que j'ai fait sur place à l'occasion donc d'un voyage d'études.
Voilà. Donc c'est pas venu comme ça. Vous avez fait ce voyage à Auschwitz.
Oui. Voilà. Alors justement, grâce au mémorial de la Shoah de Paris, qui d'ailleurs a ce livre dans ses dans ses rayonnages et qui également a le support de plusieurs émissions radio que j'ai consacrées à cet ouvrage et qui est là-bas maintenant dans la phonothèque.
D'accord. Voilà. Il faudrait y mettre celle-là.
On pourra aussi y ajouter celle-ci, oui, merci.
D'accord. Vous parliez de Monique Elis-Cohen, elle est allée aussi, elle a fait un voyage aussi à Auschwitz aussi.
Oui.
Elle nous parlait souvent. Oui.
Même encore plusieurs décennies après, ça suppose beaucoup de courage. Parce que c'est il y a un avant et un après Auschwitz. On ne revient pas de là indemne.
Oui.
Mais Adorno avait lancé le défi, il avait dit il n'y aura plus de poésie après Auschwitz.
Oui,
et je me suis dit justement que, au contraire, il en fallait peut-être, parce qu'on était dans une époque tellement brutale et tourmentée au contraire, la poésie, pour moi, c'est peut-être la partie la plus délicate de la civilisation, et on en a besoin dans les moments difficiles.
Oui, nous sommes tous d'accord, ce qu'a dit Adorno, on comprend qu'il ait dit ça, on comprend. Mais heureusement, on peut lui dire non. Voilà, on peut écrire des poèmes après Auschwitz.
Et puis quand c'est un nom de poète, je crois que
ça
suppose que quand même, on prendra des gants.
Alors, on va parler de votre œuvre. Sur quoi vous voulez maintenant Il y a plusieurs volets. La féminité aussi, pourquoi pas.
Oui. Hein? Alors la féminité, on peut peut-être l'aborder avec Concert pour Dames.
Oui, voilà, très bien.
Alors Concert pour Dames, ça se trouve dans Délices à fleurs de rêve. C'est un recueil que j'ai écrit après un certain nombre d'émotions et une prise de conscience à lire Rilke, en particulier dans le train entre Paris et Montpellier. Et puis sont venus les poèmes. Concert pour dame, femme de la terre et femme de vent, femme des clairières, femme dans la terre d'entre les morts, femme faite des arbres ruisseaux, femme des jours nouveaux et des ombres pures, femmes au fardeau déployés toutes ensemble, femmes christiques des matins de pluie, femmes exsangues des photographies, femme dans les vagues de mes songes heureux. Femme partie trop loin, femme des images passées à dévoiler les rêves, femme uniforme au couteau d'argent, femme sous la tente au bracelet d'argent qui teinte, femme des sitars et des vases peints, femme caméléon entourée de plaines et de cyprès, femmes à l'orée sauvage d'un instant de grâce accordé, femmes venues des sommets sur le tertre de l'enfance, je vous ai couronnée. Et chaque morsure du froid sur mes droits, chaque baiser donné, chaque lueur dans vos yeux, me renvoie à la femme qu'en vous toutes je suis.
L'universalité de la condition féminine.
Oui, et puis c'est dans le prolongement aussi des Trobaïrits, parce oui, que c'est quand même un sujet qui m'a beaucoup intéressée. Oui. Il y a une vingtaine d'années, quand je parlais des Trobaïrits, on me demandait qu'est-ce que c'était. Oui. On connaissait les troubadours, mais les Trobaïrits, oui, beaucoup moins. Oui. Et c'est grâce à Antoinette d'Arpuège, qui est d'ailleurs de Béziers, et qui était une amie de René Nelly, que la première fois j'ai entendu parler des Trobaïrits. Mais j'ai eu de bons initiateurs. Et à partir de là, bon, ça y est, c'était lancé, quoi. Et puis, quand même, enfin, l'hôtel d'Assisa, c'est aussi la statue de Clément Cizor. Et donc, on est dans cette, ici, dans cette lignée, je dirais, dans cette tradition des cours d'amour courtes.
Il y a beaucoup de femmes poètes, hein, actuellement, quand on regarde les publications, par exemple. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui sont des auteurs de femmes, auteurs femmes. Et même dans ce que nous avons
on a accueilli
et même dans le public, hein, il y a autant de... Voilà, ce qui est un phénomène, malgré tout, assez récent. Hein. On peut s'interroger pourquoi avant il y avait si peu de femmes qui écrivaient de la poésie.
Alors, je pense que... Alors, mais ça serait le sujet d'une conférence. Il y a eu une première vague de poétesses dans la Grèce antique, dont la figure emblématique est Sappho. Ensuite, ça a été pendant des siècles de longs silences, pour diverses raisons historiques d'ailleurs, sur lesquelles ce serait trop long de s'attarder aujourd'hui dans cette émission. Et puis après, au XIIe et XIIIe siècle, vraiment en Languedoc, c'est un phénomène exceptionnel des femmes qui sont lettrées et qui sont laissées à la tête de grands domaines, ce qui leur permet d'avoir quand même une indépendance matérielle et financière, avec la responsabilité donc de ces domaines. Elles sont très bien entourées, mais leurs maris sont partis en croisade ou alors elles ont hérité et du coup elles se retrouvent quand même à la tête d'un certain nombre de responsabilités. Mais on peut penser que très vite, les cahiers de comptes et la gestion matérielle des domaines ne leur a pas suffi. Et comme elles étaient cultivées et qu'en plus elles avaient accès à la lecture et à l'écriture, on commence à voir émerger comme ça un effort justement de parler de soi sur un plan plus intime. Alors soit par des journaux intimes, soit par des poèmes, soit par une théâtralisation d'un certain nombre de débats que posent, parce qu'ils les interpellent, les troubadours. Et là, on a vraiment un dialogue entre, finalement, ce qui est la fine fleur de la culture occitane, c'est-à-dire les troubadours, qui trouvent des interlocutrices, qui vont essayer de se mettre à leur hauteur. Elles y réussissent très bien, avec une grande délicatesse et beaucoup de grâce. Et là, c'est ce qu'on appelle les siècles du bonheur, hein, le 12e et le 13e siècle. Et puis après, malheureusement, il va y avoir la déferlante avec Simone de Montfort, dont on connaît après l'effet de destruction sur le plan psychologique et culturel pour notre civilisation méridionale.
Vous disiez qu'il n'y avait pas de thème spécifiquement féminin dans ce livre. Je ne vois pas de thème spécifiquement féminin.
Dans quel livre ?
Féminité du Sud.
Alors, il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les conférences qui m'ont été demandées, et puis ensuite il y a la réédition quand même de, des Trobaïris, femmes poètes oui. du Sud, où 15 poétesses du Sud-Ouest jusqu'à la Côte d'Azur vont répondre par rapport à ce que c'est que d'être poète, et aussi leur appartenance sudiste, parce que ça aussi, ça m'interpelle beaucoup. Comme aux États-Unis, on a des auteurs du Nord et des auteurs sudistes, je pense qu'en France, on est un peu dans la même situation, mais pas pour les mêmes raisons.
Ça fait plaisir d'entendre ça, sur le poète du Sud. On a essayé de regrouper un peu les poètes du Sud, et maintenant, on a l'impression que c'est un peu obsolète, ce que je ne crois pas du tout. C'est-à-dire que je crois qu'il y a effectivement une sensibilité de la poésie qui s'exprime dans le Sud et qu'il faut rechercher. Je veux dire, il n'y a pas honte à se prévaloir des poètes du Sud.
Dernièrement, je parlais des nourritures terrestres de Gide. Gide, c'est quelqu'un qui est né à Nîmes, qui ensuite est allé en Afrique du Nord, mais c'est quelqu'un qui me semble complètement répondre justement à cette espèce de sensibilité et aussi à cette évocation imprégné finalement de culture méridionale, des bords de la Méditerranée.
Martine Bière, vu le temps qui passe si vite, je vais vous demander de bien vouloir nous lire encore des poèmes. Peut-être, qu'est-ce que vous allez choisir ?
Alors, peut-être, ça c'est encore un autre aspect. L'hommage à Manitas de Plata.
Ah oui, très bien.
Alors, l'hommage à Manitas de Plata, c'est à la fois un lien avec l'histoire et avec la persécution aussi au moment de la Seconde Guerre mondiale, non seulement des Juifs, mais aussi de tous ceux qui ne rentraient pas dans le modèle qui correspondait finalement au désir hitlérien. Ça, c'est intéressant de voir comment cet homme, à un moment donné, a voulu, après la guerre, mettre en place justement la notion de nation gitane. Et il a fait beaucoup à l'ONU pour que ce soit validé et que, par conséquent, ces personnes-là aussi soient respectées. Toi, tu as faim d'espace et d'étoiles comme Salvador. Et toujours souffle quelques brises qui vous emportent vers l'ailleurs. La fumée des camps où martèlent les pieds nus de jeunes inconnus et les brasiers où luisent des matricules que personne ne lit plus. Dans le miroir, on trouve ceux qui se recroquevillent comme des châtaignes. Dans le miroir, on voit ton sourire, ô Manitas, et rien ne dit l'odeur élastique des figues de l'été à s'ébattre sur les collines et peut-être dans le ressac. Entre les dunes, plus qu'une pierre qui brille. Les souvenirs d'une ascension, le fait des applaudissements nocturnes. Tout cela aussi, magique que le vent dans tes mains qui soulève les palpitations de la guitare. Tout cela raconte une histoire. Dans l'invisible partition d'un ciel où s'échangent des vœux infinis, priés à voix basse et à peine entamés par notre humeur torride. Et toi, jeune fille étourdie, tu danses avec ta jupe à volant, ta tignasse sauvage et trop bouclée, dans l'air des soirs transfuges, mais pas seulement, dans les matins de froid violent aussi tu danses. Et cette guitare est comme le balbutiement d'une écriture violente, avec des lettres énigmatiques qui tracent la force dans le bois du feu, avec la cendre des vieux os sortis de l'abîme ou du purgatoire. Et chaque âme enfouie, même la plus triste, c'est lire ton nom, ô Manitas. Elle se reconnaît, l'âme, elle attend sa rédemption et tu joues ce peu d'amour, à la lumière de la reconnaissance des doigts rouges, et tu danses sur des cordes tendues de linge de vent qui révèlent le ciel de ma conscience et les émois d'une fillette perdue. On ne dort pas avec ce qu'elle raconte. Tes cordes, ô Manitas, vont au firmament de l'âge des pierres, des ronces, de la fièvre, et des enfants jetés aux quatre vents de la misère, des tombes, sur des chemins sans nom. Alors dans mes nuits, on entend des choses qui chutent, Et on ne sait pas, humanitas, si c'est l'alcool, le sang ardent des corps ou les bombes. Alors on secoue le testament de nos destins, on met des tapis sur la douceur de ton regard, on oublie tes serments, tes frasques, tes impertinences. Sur les murs, tu devines des affiches avec les formes de ton nom. Ma-ni-tas. Tes femmes voudraient que tout recommence, la musique, les chants, la danse, ton sourire, et quitter ce monde pour être avec toi dans l'autre. Des images le disent que tu n'as pas rêvé, mais tu étais le rêve. Dans ton ciel merveilleux passent des avions légers avec des banderoles qui flottent sur un fond bleu de mer. Étais-tu vraiment descendu ou gardais-tu les cordes pour toujours remonter?
On a envie d'écouter Gallo de Camargue, hein.
Oui, ça. Je l'ai croisé au moins deux ou trois fois dans ma vie, ça a été extraordinaire. Il avait un talent enchanteur.
Oui, oui. C'est absolument stupéfiant.
Oui. 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 Et c'était un homme qui ne savait ni lire ni écrire.
Oui. Les premiers temps, dans ses premières apparitions, les gens avaient peur d'être volés.
Il a pourtant disposé à un moment donné d'une fortune aurait enviée. Oui. Moi, je l'ai vu distribuer des billets de banque de bonne heure le matin, place de la Comédie à Montpellier. C'était quelqu'un en même temps d'assez généreux, parce qu'il n'avait aucune notion justement de l'argent. Donc, comme il en gagnait beaucoup, il y avait ce côté un peu dispendieux de la personne, un peu extravagant. D'ailleurs, à un moment donné, il y a l'allusion à Salvador Dali. C'est cette époque-là aussi où c'est quand même assez surréaliste dans tous les sens du terme.
On va vous demander une dernière lecture.
Une dernière lecture, peut-être en écho à l'actualité et à des personnes qui sont dans la guerre actuellement sur le territoire européen et aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, c'est un extrait de Guerre civile.
Oui.
Peut-on crier pour venger ce qui fut ? Peut-on pleurer quand ce qui est n'existe plus ? Douleur, mais le souffle court, à perdre haleine. Le souffle court, médusé. D'autres réalités s'imposent. D'autres réalités se posent là, comme luciole sur la noirceur. Et la nuit ne devient pas plus calme, ni sereine, mais peut-être seulement plus hospitalière, des coups, des cris, de la douleur et de la toux, des chansonnettes pour dire autrement qu'il faut en passer par la nuit, que n'importe où, n'importe quand, la louve est de retour, et peut-être dès maintenant. Calmant. Pourquoi maintenant, hier, pour demain? Ta chansonnette avec des mots badins, tout s'arrête sauf le cœur. Sauf le cœur, qu'ont-ils à dire les oubliés des jours morts, qui a dormi en paix sans arrêter le cœur des traîtres, des dissipateurs, des triants, des truands, des criminels? Qui va arrêter le cœur de la louve? Où est le chasseur chassé? Le chasseur et le soldat en déroute. Le pastoureux meurtri, son agneau dans la nuit sous le bras, où? J'étranglerai la louve de mes mains, j'obligerai le serpent à se tordre autour du caducé, je tendrai le ventre des tambours. Ténèbres. Tranchoir dans la longue forêt feuillue. Tranchoir dans la longue forêt feuillue, et maintenant nous mangeons du gigot à ne savoir qu'en faire. Nous avons de la laine. Il ne fait pas froid, tout brûle encore. Alors, ça s'appelle Guerre civile. Là aussi, c'est un recueil de poèmes qui a été illustré par des peintures de Gaëtan Biard. Gaëtan Biard, c'est mon mari. Il est l'auteur de plusieurs couvertures de mes ouvrages. Il a illustré pas mal d'ouvrages aussi, même si j'ai travaillé après en collaboration avec d'autres illustrateurs, comme Nicolas Galtier ou comme aussi Vaya Politi, qui est une grecque. J'ai travaillé aussi avec donc des musiciens et je salue en particulier tout le travail de Christiane Barthès qui a fait des partitions tout à fait exclusives pour Guerre civile par exemple. Et puis je voudrais donc aussi attirer l'attention sur Oli Jenkins qui sera mon partenaire pour le spectacle Les...
Le 25 janvier.
Le 25 janvier pour les Sentinelles du Désir. Voilà. Oui. Alors, à partir du recueil éponyme, les Sentinelles du Désir, nous avons mis en place, justement, une coproduction avec des voix, de la musique, une chanson, et puis, évidemment, la mise en voix de ce recueil.
Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié les couvertures...
De Gaëtan Bia.
Gaëtan Bia. Ça fait penser à Hannes Lassik. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est.
Hannes Lassik, oui. Alors, on était avec elle encore cet automne à Alès, dans le cadre d'une exposition justement au musée Pape.
Avec Folle.
Voilà,
Pierre Folle. Oui. Je trouve qu'il y a des accointances.
Oui, il y a quelque chose.
Les peintres devraient se. Il faut les mettre en relation.
Mais ils se connaissent.
Oui. Merci beaucoup, Martine Biard. Alors, on va rappeler, si vous voulez bien, quelques titres de vos recueils. Les corridors implacables, suivi de l'excellence du jeune homme désappointé.
Alors ça, c'est en réaction justement au départ aux attentats qui avaient eu lieu à Paris.
Voilà. Et puis de celui qui fera l'objet essentiellement donc de votre prestation du 25 janvier.
Les Sentinelles du Désir.
Voilà. Les Sentinelles du
Alors,
Désir.
Alors, on trouve tout ça en le commandant. Oui, on peut le commander aussi en librairie. Et puis, on le trouve aussi chez les grands distributeurs comme la Fnac, Cultura, etc. Oui. Je n'oublie pas de le dire parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des cartes de fidélité et qui, justement, sont contentes de savoir qu'elles peuvent se le procurer aussi.
Martine Biard, retenez ce nom. Voilà. Merci Svante. Merci Martine Biard. À très bientôt. Bon retour à Lunel, merveilleuse contrée.
Oui, porte de la petite Camargue.
Porte de la petite Camargue, nous aimerions bien aller.
Entre Nîmes et Montpellier.
Et donc, à bientôt.
Merci. Voilà.
Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine.
Toujours un bonheur.
Radio Occitanie, et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.